Les infos à Washington.
Bonsoir et bienvenue à ce bulletin. Devant le micro, Nani Tetalani. Il est minuit à Djouba, Rumbek et Malakal au Soudan du Sud. La mobilisation lancée hier en Guinée par l'opposition contre le projet de troisième mandat attribué au président Alpha Condé s'est poursuivie ce mardi selon des témoins et les autorités. Celle-ci indique que deux commissariats ont été saccagés et incendiés dans la ville de Pita à 200 km de Conakry. Au nombre de plusieurs centaines, les manifestants en ont profité pour dérober des armes et des vivres dans des sacs de riz, a expliqué un témoin à l'AFP ayant requis l'anonymat. Deux manifestants d'une vingtaine d'années ont été tués hier. À Conakry, des heurts ont à nouveau opposé aujourd'hui des manifestants aux forces de l'ordre, mais les activités dans la capitale qui avaient cessé hier avec la fermeture d'écoles, de banques et de stations essence ont timidement repris. Des manifestations ont également à nouveau eu lieu dans plusieurs autres villes, notamment à Lelouma dans le nord, où un policier a été blessé par balle. Le consulat de Belgique à Lubumbashi dans le sud-est de la RDC a repris son service, un signe de la normalisation des relations entre les deux pays liées par l'histoire. Ce malgré le report inédit d'une visite du ministre belge des Affaires étrangères en RDC. Le consulat général a ouvert ses portes hier après 2 ans de fermeture, a précisé l'ambassade belge à Kinshasa. Le consulat avait été fermé depuis 2018 au plus fort de la crise entre Kinshasa et son ancienne puissance coloniale. Par ailleurs, l'armée congolaise indique qu'elle poursuit ses opérations contre le groupe armé des forces démocratiques alliées après la prise de leur quartier général près de Beni dans l'est du pays sans le concours des Nations Unies. L'armée doit encore neutraliser un dernier chef de cette redoutable organisation avant de dire que l'histoire des ADF est terminée, a déclaré son porte-parole le général Léon Richard Kasonga. Une diplomate mauritanienne de haut rang a annoncé avoir démissionné après un tweet à connotation antisémite contre un militant français anti-esclavagiste refoulé la semaine dernière à son arrivée à Nouakchott. Une source proche du gouvernement a indiqué que la diplomate aurait été renvoyée si elle n'avait pas démissionné d'elle-même, sans préciser si c'était la tonalité antisémite de son message qui lui aurait valu d'être sanctionnée. Mariam Aoufa, directrice du département Amérique et Asie au ministère des Affaires étrangères, s'était réjouie sur Twitter de l'expulsion le 10 janvier de Jean-Marc Pelenc, le qualifiant de juif appartenant à Charlie Hebdo, le journal qui offense la religion musulmane en général, du Coran et du prophète Mohamed en particulier. Son tweet, accompagné de la photo d'une une de Charlie Hebdo, a depuis été effacé. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque de Chinogodar dans l'ouest du Niger, frontalière malienne, qui a fait 89 morts, la plus meurtrière depuis le regain des attaques en 2015, a rapporté l'organisme américain de surveillance des mouvements extrémistes cité, citant le groupe ISWAP, État islamique en Afrique de l'Ouest.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
5 personnes ont été blessées à Khartoum où des tirs nourris ont retenti dans 2 bases des services de sécurité soudanais, des employés ayant lancé une rébellion pour rejeter des compensations financières dans le cadre d'un plan de restructuration. En sport, la première édition du Tifoko, le tournoi international de football de la RDC, aura lieu du 16 au 19 janvier à Kinshasa. Initialement, la compétition devait rassembler la RDC, le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Mais les 2 derniers viennent d'annoncer leur forfait. La FEGIFOOT, la Fédération guinéenne de football, indique un délai trop court. Finalement, c'est le Niger qui remplace la Côte d'Ivoire. Pays hôte du championnat africain des nations 2020 et de la Coupe africaine des nations 2021, le Cameroun reçoit depuis hier et jusqu'au mercredi une délégation de la Confédération africaine de football pour une visite de travail. Le pays des Lions Indomptables devra rassurer sur sa capacité à achever dans les temps les travaux pour la CAN, notamment le complexe sportif d'Olembe qui a connu d'importants retards ces derniers mois. Demain, les autorités camerounaises de la CAF trancheront au sujet des dates de la CAN 2021 avec un probable retour de la compétition en janvier-février. C'est ici que prend fin ce bulletin. Merci de votre aimable attention.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
English USA vous présente African Voices in Conversation, des conversations en anglais qui ont attrait à la vie quotidienne au Sénégal. Mathieu a été l'heureux gagnant du gros lot à la loterie nationale de son pays. Il va raconter sa vie d'alors au journaliste Benjamin. Il évoquera aussi sa vie actuelle et exprimera des regrets. Écoutons l'ancien millionnaire et le journaliste. Vous répondrez vrai ou faux aux deux énoncés que vous allez entendre. 1. L'émotion avait rendu Mathieu fou. 2. Son logeur le priait de rester. Vous répondrez ensuite à ces trois questions. 1. Mathieu se rappelle-t-il quand il a gagné à la loterie? 2. Comment Mathieu s'est-il senti après son gain? 3. Qu'est-ce qu'il a acheté avec l'argent gagné? Vous apprendrez enfin comment exprimer des actions au passé en écoutant des phrases au passé ou « past simple » en anglais. Écoutons l'ancien millionnaire et le journaliste.
When was it? I mean, when did you win the lottery?
It happened on Friday, the 13th, in 2003, I think. Perhaps it was in 2002 or in 2004, maybe.
How did you feel?
I felt crazy for days and days.
Crazy? Why would you feel crazy? Was it very emotional?
Yep, lots of emotion, lots of happiness, lots of everything.
Can you tell me why?
Because it was so sudden and so good.
So what was the first thing you did with the money?
I bought my own house, a big house. When I moved out, the landlord was begging me not to go.
What else did you buy?
Furniture, nice furniture.
What else?
I replaced my old car. I went and bought a big German car.
Merci. Did you buy a Mercedes?
No, it was a BMW, young man.
Where did you keep the money?
In my pocket, in my bag, at the bank. For once in my life, the bank manager was running after me instead of me running after him.
That sounds great. So what is the situation today?
Different, young man. But that is an old story.
Why?
At first, my life was great. Now, I have nothing but trouble. Trouble with the landlord, trouble with the bank, trouble with my friends.
Even with your friends?
Well, you know what they say. No money, no friends. Trust me, I know.
Nous avons entendu dans cet entretien Mathieu parler de sa vie passée et de ce qu'il vit à présent. L'énoncé 1 est faux. L'émotion a rendu Mathieu fou. L'énoncé 2 est vrai. Son logeur l'a prié de rester. Voilà les réponses aux questions. 1. Mathieu se rappelle-t-il quand il a gagné à la loterie? Non. 2. Combien de voitures a-t-il acheté? 1. 3. Qu'est-ce qu'il a acheté avec l'argent gagné? Une maison, des meubles et une voiture. Et si vous auriez gagné à la loterie, qu'est-ce que vous achèteriez avec l'argent gagné? Répétez ces phrases dites par Mathieu.
It happened on Friday, the 13th. I replaced my old car.
Répétez aussi. He called the bank manager. We listened to Matthew's story. Ces phrases expriment des actions passées au simple past avec des verbes réguliers. Benjamin aussi a posé ces questions en utilisant également le simple past. Répétez ces questions.
When did you win the lottery? How did you feel? What else did you buy?
Répétez aussi. Where did the students go?
Why did the music stop? Comme Benjamin, nous avons utilisé dans ces questions « did » suivi du sujet et suivi de l'infinitif sans « to ». Nous connaissons maintenant l'histoire de Mathieu. Vous avez entendu « vrai » ou « faux » à des énoncés. Vous avez répondu à des questions. Vous avez appris à utiliser le « simple past » pour exprimer des actions passées et vous poser des questions. Pour plus de renseignements au sujet des cours d'anglais, Learning English, allez au site internet suivant à americanenglish.state.gov ou à voalearningenglish.com. Welcome to Business English. Bienvenue à notre émission consacrée à l'anglais commercial aux États-Unis. Dans ce programme, vous participerez à des voyages d'affaires, à des conversations téléphoniques, à l'échange de messages e-mail et à des interviews. Au micro, Michel Joseph. Deux questions d'étiquette dans le milieu des affaires. Première question, les Américains dans les milieux d'affaires utilisent-ils leur prénom ou leur nom de famille?
Do Americans usually use their first name or last name in business?
First name, c'est le prénom. My first name is Michelle. Last name, nom de famille. My last name is Joseph. What is your first name? Quel est votre prénom? À vous de me répondre. What is your first name? What is your last name? Quel est votre nom de famille? Répondez-moi. What is your last name? Comme vous allez entendre, pour Gary, c'est une question difficile.
This is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you.
This is a difficult question. C'est une question difficile. To be safe, use the name that the other person gives you. Pour être sûr de ne pas faire une gaffe, to be safe, donnez-lui le nom qu'il ou elle se donne, le prénom ou le nom de famille. Gary dit, quand il se présente, Please, call me Gary. Veuillez m'appeler Gary. Please, call me Gary. C'est ainsi que vous donnez la permission à l'autre personne de vous appeler d'une certaine façon. Écoutons la conversation qui suit à propos de la première question.
Hi, Elizabeth.
Hello, Gary. Our listeners have sent in some email questions, Gary. Our first question is, do Americans usually use their first name or last name in business?
Well, this is a difficult question. To be safe, use the name that the other person gives you. I always say, please call me Gary.
Gary dit, I always say, je dis toujours, always. I always say, please call me Gary. Littéralement, s'il vous plaît, s'il te plaît, appelle-moi Gary. Appelle-moi Gary. Please call me Miss Joseph. Please call me Mrs. Joseph. Ce qui nous amène à la prochaine question d'étiquette. Elizabeth demande à Gary... When speaking with women in business, quand on parle à des femmes dans un contexte d'affaires ou professionnel,
when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms?
When should we use, quand doit-on se servir de? When should we use Miss, Mrs. or Ms? Miss, mademoiselle, ou comme le dit Gary, for single women, pour les femmes célibataires. Single women. Les femmes célibataires, miss. Ou bien, Mrs., madame. For married women, pour les femmes mariées. For married women.
Well, Miss is for single women. Mrs. is for married women.
Ou encore, Ms. Un mot nouveau qui est neutre et n'implique pas le statut de célibataire ou de marié à la femme en question.
Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married.
Écoutez la conversation qui suit.
Our next question is, when speaking with women in business, when should we use Miss, Mrs. or Ms.?
Well, Miss is for single women. Mrs. is for married women. Ms. is easier to use than Mrs. or Miss because you don't have to know whether or not a woman is married. I always use Ms. because with Ms. I usually don't offend people.
What do most American women in business prefer?
I believe that most American women prefer Ms.
Thank you, Gary.
Finissez la phrase. Vous allez entendre le début et vous devez terminer la phrase. Écoutez et finissez la phrase.
Some people use their first name in business, but others prefer to use their last name.
Le nom de famille.
They prefer to use their last name.
Le nom de famille.
Most American women prefer to be addressed as Ms. They prefer to be addressed as Ms.
Ms, c'est neutre.
In the past, people used to address all married women as Mrs.
Et c'est tout pour cette leçon de Business English, l'anglais commercial. That's it for today. Until next time, à la prochaine fois. Aujourd'hui, nous serons en compagnie de Martin Lerner et de son fils Alan. Ils veulent acheter des chaussures et une chemise dans une boutique de vêtements pour hommes, a men's store. Vous apprendrez à décrire ce que vous voulez acheter. English USA est diffusé en direct de Washington, au micro Michel Joseph.
Hi, Dad. What are you doing?
Waiting for your mother and Sue.
When are they coming?
At 2:00.
You're early. Come with me.
Where?
I want to buy a pair of shoes.
Where are we going?
Right here.
What kind of shoes do you want?
I need dress shoes.
I like these shoes. Do you like this kind?
No, they're for old men.
May I help you?
I want to look at some shoes.
What color?
Black.
Do young men wear black shoes?
Sometimes.
What kind of shoes do you want? Casual shoes?
I want dress shoes, but a little casual.
He doesn't want old men's shoes.
I see. Do you like these? We have them in brown and black.
They're okay.
Let's try them for size. What size do you wear?
Size 11.
Your foot looks bigger than size 11. I'm going to bring a pair of 11.5 too. Please sit down.
Do you like these?
They look too casual.
Let's try these.
Okay.
How do they feel?
They're too small. Do you have a bigger size?
Yes, I brought a pair. Try these.
That's good. It feels good. It's just right. What size is that?
Size 12.
Size 12? Let's try something else.
Tell me what you like.
I want black shoes. I want a dress shoe to wear at night.
A little casual.
Yes, a little casual. But I don't want a heavy shoe.
This one?
No, it's too big. It looks big.
Size 12 is a big shoe.
I know, but this one looks big.
You want dress shoes that are black, a little casual, but not big and heavy.
Yes, that's right.
Do you like this shoe?
It's green.
I have black ones.
Okay, let me try that one.
Vous avez déjà appris certains mots dont on se sert pour décrire des vêtements, par exemple big, black. Notez aussi que pour les chaussures, par exemple, size 11, taille 11. I want size 11 shoes. Je veux des chaussures taille 11.
I want black shoes. I want dress shoes. I want size 11 shoes. I don't want size 12 shoes. I don't want heavy shoes. I don't want big shoes.
Répondez maintenant aux questions de Martin Lerner. Commencez par I want. Par exemple, I want shoes. Or, ou bien, I want black shoes. Donc, vous répondrez à ces questions. Il vous demandera, par exemple, What color of shoes do you want? Vous voulez des chaussures de quelle couleur? À ce moment-là, vous répondez I want black shoes or I want brown shoes, etc. Allez-y.
What color of shoes do you want? What kind of shoes do you want? What size shoes do you want?
Répondez aux questions qui vont suivre en disant ce que vous ne voulez pas. I don't want. Pour ce que vous voulez, rappelez-vous, I want. Pour ce que vous ne voulez pas, I don't want. Je vais vous demander, do you want casual shoes? Voulez-vous des chaussures décontractées ou plutôt ordinaires? Do you want casual shoes? À vous de répondre, I don't want casual shoes. I want dress shoes. Je ne veux pas des chaussures décontractées ou ordinaires, je veux des chaussures habillées. I want dress shoes. À votre tour.
Do you want casual shoes? Do you want heavy shoes?
May I help you?
I'm looking for a shirt.
What kind of shirt? A sports shirt or a dress shirt?
A casual shirt.
You're very tall. What size do you wear?
I wear a large size.
Look at these. Do you like these colors?
Exerçons-nous en faisant des courses dans un shopping mall aux États-Unis. On va aller dans un magasin de vêtements masculins, a men's store, tout d'abord. On ira bien sûr tout à l'heure dans un magasin de vêtements féminins, a woman's store, et dans un magasin de chaussures, a shoe store. La personne qui travaille dans le magasin vous demandera « May I help you? May I help you? Puis-je vous aider? » Vous êtes dans un magasin de chaussures, donc vous allez dire « I want some shoes » ou bien « I need some shoes ». J'ai besoin d'une paire de chaussures. L'assistant vous demandera sûrement « What size shoe do you wear ?» Vous chaussez du combien ?« What size shoe do you wear ?» Vous chaussez du combien ? Vous répondrez « I wear size 10 » ou bien « I wear size 11 » ou bien « I wear size 12 ». You're now ready to go shopping. Vous êtes prêts maintenant pour aller faire vos achats de vêtements ou de chaussures dans un shopping mall ici aux États-Unis. Practice hard, alone or with friends and family. Exercez-vous, même tout seul ou en famille et avec des amis. Until next time, goodbye. Hello, hello. I'm your English host. Je suis votre présentatrice pour l'anglais, Michelle Joseph, ici au micro. Voulez-vous mieux parler l'anglais?
c'est fait. Retrouvez-moi tous les soirs à partir de 21h, temps universel, sur VOA Afrique et sur notre site internet à www.voaafrique.com. Cliquez sur Apprenez l'anglais pour retrouver les leçons de tous les jours. Et les week-ends sur Onde Courte, le samedi et le dimanche à 20h TU. Pour mieux parler l'anglais, to speak better English, ne ratez pas English USA sur VOA Afrique.
Bienvenue à Anglais Télé, votre émission pour pratiquer l'anglais. This is where you learn how to practice English. My name is Michelle Joseph.
And I am Roger Muntu.
And we have two guests with us today.
Hi, everybody. I'm Eva Pacchianaro.
And?
Hi, I'm Yubin Kim.
And we're very happy to welcome our guest also in DRC, Portland, Maine. We're discussing about, and Mali, sorry.
That's right. We have a lot of people in Mali too.
We have to.
Yes.
Not, we must not forget our
That's
listeners.
That's right.
Okay.
That's right. That's correct.
So we're going to continue with to have.
Mm-hmm. Part two.
Part two, yeah. Which basically, there are challenges with to have because, especially with the contractions.
Right.
When we're using she, he, or it has, when we do the contraction, it's or he's or she's, yeah, it can be confused with is. She's very pretty or she's got a lot of work to do. He's, so the he has and she has or he is or she is, mm-hmm, when that contraction happens, sometimes it's difficult to find out.
Yes.
What is this exactly?
Yeah.
Do you have an idea of an example that you could use in that context? Maybe Roger can help
you. Yeah, I have an example here. This is what Michelle is trying to say. Third person of singular of the verb to be is he is or she is. You contract that, you're going to be his. He's sick.
Yes.
He's hungry. He's French. She is American. She's, no, she is.
It's.
Contraction, she is.
Mm-hmm.
It's funny.
Mm-hmm.
Instead of it is. Here in America, if you say, oh, it is funny, they know you're not American.
Okay.
Right.
That's it.
It's going to sound bizarre.
They know you're not American, yeah. If you say, oh, it is cool, they know you're not American. Because
okay.
Americans say, it's cool. It's funny. It's, they contract a lot. So this is the verb to be. Let's come back to the verb to have, the one Michelle was saying. There's also a third person in to have, which is he has, she has, or it has. That also has a contraction,
mm-hmm,
that also he's, right? She has,
or,
you can also put that contraction.
Yeah, so he's got.
He's got. So the only difference here, if I should add to what Michelle was saying, the how would you know is because the one with the verb to have has to be followed by a verb.
Right.
That's the difference.
Yeah.
Okay.
So when you say, it's cool, cool is not a verb. So that's fine.
Okay.
We know that's to be. But in to have, you say, he's got to leave tonight. He's got to leave tonight. To leave as a verb.
Yes.
So we know that's it's
has.
Right? Does that make sense?
Yes, I got it.
You got it?
Oh, awesome. She got it.